Voilà, c'est un plaisir d'être là. Puisque vous avez l'habitude d'être vers la fin de l'Ancien Testament, ben on va faire la même chose ce soir. Daniel, chapitre 1. Donc Daniel, chapitre 1, c'est juste après Ézéchiel. Daniel, chapitre 1, et juste le chapitre 1 et puis les trois premiers versets ce soir. Même seulement les deux premiers versets. Daniel chapitre 1. Donc, un petit peu ce soir, on va voir que il arrive parfois que le peuple de Dieu passe par des moments très difficiles et où on a l'impression d'être complètement abandonné. Mais la réalité, c'est que Dieu contrôle les choses et tout termine bien. Ça vous fait penser à un verset, non? De Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les mauvaises choses, hein, on pourrait dire, même les mauvaises choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce que c'est, il y a des choses qui arrivent, donc ça va pour le mieux. Daniel chapitre 1, versets 1 et 2. Il dit: la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Chose extraordinaire, voilà. C'est pas, il ne dit pas, il était plus fort, son armée était plus forte, il avait plus de monde de son côté, il avait du matériel que les autres n'avaient pas, il était plus à jour. Non, non, il dit, l'Éternel livra entre les mains de Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui livre Jérusalem, c'est Dieu qui livre tout, et même ce qui est dans le temple. Voilà. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Dieu, tu fais ça? Il prend de ton Dieu, il prend de ton temple, et il l'emmène, il le met dans le temple de son Dieu, et tu laisses faire. Et il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Voilà, ça maintenant, ça appartient à mon Dieu. Le Dieu d'Israël me l'a donné, c'est à moi. Pense pas faux. Ce qui est à Dieu et reste à Dieu pour toujours. Hein? Et alors, c'est là, ça, on a l'impression, ben voilà, c'est terminé. Ça y est, c'est parti. Tout ce que David a fait, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a. Et puis qu'il a passé à son fils Salomon, puis après c'est tout ça, puis tout ça, maintenant il n'y a plus rien. Et tout est en ruine. Mais Dieu veille toujours sur ce qui est à lui. Alors regardez comment il protège ses biens. Chapitre 5, hein, Daniel, chapitre 5 et verset 3. Donc Nebuchadnezzar est mort. Hein, c'est le dernier chapitre de Nebuchadnezzar, c'est le chapitre 4. Le chapitre 5, c'est Belshazzar. Et lui, bon, il a hérité d'un royaume et puis il est en train de faire une longue fête. Et dans sa fête, eh bien, il dit: ah, il y a tous ces ustensiles en or qu'on a pris à Jérusalem, qui n'ont pas servi encore, on va les sortir et on va faire la fête avec ça. Et il a une mauvaise idée. Je lis à partir du verset 1, chapitre 5, verset 1, il dit: le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de son Dieu, à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 4, ils burent du vin, ils louèrent leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre. Et en ce moment apparurent les doigts d'une main Et il écrivait en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais du royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Je ne sais pas quelle était sa première couleur, mais c'était un roi de couleur. Hein. Il change de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Bon, je ne vais pas lire tout le chapitre ce soir. Vous pouvez continuer. Mais là, ça va mal terminer pour Belshazzar. Cette nuit-là, il va mourir. Et il va perdre tout le royaume. Pourquoi ? Il a pris ses ustensiles qui avaient été consacrés à Dieu et va s'en servir pour lui-même. Petite application entre parenthèses. Si nous avons consacré notre vie au Seigneur et ensuite on s'amuse à reprendre notre vie pour vivre et faire ce qu'on veut, c'est risqué. Parce que ce qui a été donné au Seigneur est donné au Seigneur. Et il le garde. Et méfions-nous. Mais là, Dieu va récupérer ses affaires, il va récupérer ce qui est à lui. Et maintenant, si vous lisez avec moi dans Esdras, chapitre 5, donc Esdras, chapitre 5, il faudra aller avant les psaumes. Hein. Esdras, chapitre 5, c'est Esdras, Néhémie, Esther. Donc, Esdras, chapitre 5, et verset 14. Donc là, c'est plus tard du point de vue historique, mais dans le chapitre 5, eh bien, il y a le Cyrus qui est maintenant roi et qui a, vous lisez le début du livre, et Cyrus veut renvoyer le peuple vers Jérusalem, reconstruire le temple et donc il va leur rendre tous les ustensiles. Chapitre 5, mais l'œil de Dieu, chapitre 5, verset, qu'est-ce que j'ai dit, 14. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or, d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone. Et il les fit remettre au nommé Sheshbatsar, qu'il établit gouverneur. Et lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple à Jérusalem et que Dieu, la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Voilà, Dieu prend soin de même ce qui lui appartient. Ce qui a été consacré à lui, c'est à lui. Il prend soin. Il prend soin et ses ustensiles. Donc il y a les 70 ans du peuple en exil. Et après les 70 ans, le peuple peut revenir. Eh bien, ils reviennent avec les ustensiles qui ont été emportés et ils le remettent à Jérusalem. Si Dieu prend autant au sérieux des objets d'or, d'argent du temple, nous, nous sommes des éléments du temple de Dieu. Et Dieu prend soin de nous aussi. Et n'importe qui ne peut pas nous toucher comme ça. Ce que nous voyons matériellement exprimé ici, dans le Nouveau Testament, on l'a spirituellement mentionné. Dieu nous a rachetés. Nous sommes à lui. Et même si quelqu'un essaye de... Dieu se souvient que nous sommes à lui. Et il nous ramènera. Ce Belshazzar, ce Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Eh bien, Jérémie, chapitre 25. Jérémie, chapitre 25. Et au verset 9, voilà le plan de Dieu. Parce que le peuple d'Israël a désobéi. Alors Dieu, c'est Dieu qui choisit Nebuchadnezzar. Et verset 9, hein, je prélève, hein, il faut lire, normalement il faut lire tout le chapitre. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. » Vous avez remarqué ce qu'il dit de Nebuchadnezzar ? Il dit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. C'est-à-dire, Dieu prend ce roi païen et il décide de l'utiliser pour accomplir son œuvre, son plan. Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, ils sont dans l'idolâtrie, dans la terreur, et Dieu voudrait les juger. Eh bien, il va se servir de Nebuchadnezzar, il l'appellera son serviteur. Il dit, je ferai rassembler, tu vas rassembler du monde, tu vas aller là-bas à Jérusalem et tu vas tout démolir. Ça nous étonne qu'il l'appelle son serviteur. Regardez même au chapitre 43, verset 10, hein, Jérémie 43, verset 10, c'est pas une faute de frappe parce qu'il redit la même chose. Jérémie 43, verset 10. Il dit, « Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. » Voilà, sa domination, son royaume s'étendra sur ce peuple. Il dit, « Nebuchadnezzar, mon serviteur, va accomplir mes intentions. » On dit, oh là là, mais oui, Dieu peut, il a des projets. Ceux qui lisent l'Exode, ben, vous savez, Dieu s'est servi de Pharaon. Dieu va se servir de Nebuchadnezzar pour venir prendre possession d'Israël. Revenons sur Daniel, chapitre 4. Donc, Nebuchadnezzar prendra, démolira Jérusalem, les murailles, il le fera en plusieurs fois. Hein, et le temple, tout, il va tout prendre, il ne restera plus rien, au point que Néhémie, quand il entend parler, il se met à pleurer. Hein, c'est tellement une ruine. Donc, Daniel, chapitre 4, et il faudrait lire tout le chapitre, hein, mais regardez comment Dieu travaille avec Nebuchadnezzar, ce roi païen, et ce roi qui est puissant, qui est plus puissant du monde. Et je vais lire à partir du verset 28. Donc, il dit, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Et donc, voilà, il avait averti, il a dit, écoute, si tu commences à te glorifier encore, tu vas devenir comme un animal. Les choses se sont passées. Et il est devenu comme un animal. Et au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais du royaume de Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf, de l'herbe à manger, et 7 ans, ça veut dire 7 années, passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Dieu avait pris Nebuchadnezzar, il lui a donné une tâche, mais maintenant Nebuchadnezzar, il commence à croire que c'est lui, c'est la hache qui croit que c'est elle qui a coupé le bois. Hein, tout d'un coup, il a cette idée que c'est lui. Et c'est là où le problème arrive pour lui. Et au verset 33, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de rosée du ciel jusqu'à ce que les cheveux crussent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux. Imaginez à quel état il est. C'est un être humain, mais qui a l'état animal, hein, vraiment. Et dans cet état-là, il dit, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Vous avez vu le changement de langage, hein ? Il y a une conversion là qui s'est faite. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui ose lui dire « Que fais-tu ? » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me furent rendues. Imaginez, absent pendant 7 ans, tu es un fou, excuse-moi les expressions, et puis, mais personne n'a pris sa place. Dans ce genre de royaume, dès qu'il y a une place qui se libère, ça monte. Mais Dieu contrôle toutes choses. Et il dit, ma splendeur me fut rendue, mes conseillers, mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans le royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Le problème, c'était pas sa puissance, le problème n'était pas son argent, le problème n'était pas sa magnificence, le problème c'est les pensées de son cœur. C'est pas l'argent le problème. Vous pouvez avoir des millions si vous voulez. Le problème c'est votre cœur où il est. Et lui, il a eu un peu de bénédiction de la part de Dieu, Dieu s'est servi de lui, il s'est monté à la tête, et il s'est cru plus fort que tout, et c'est lui qui est contrôlé maintenant, c'est lui qui décide de tout, hein, qui fait la pluie et le beau temps, et t'es arrivé à ce point de croire cela, eh bien, le Seigneur l'a remis à sa place. Et puis là, il a retrouvé la place chez les hommes, mais dans son cœur, Dieu avait une place. Et ça a tout changé. Ésaïe en parlera prophétiquement. Dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Et c'est surtout ces passages-là qui m'ont... Parce que je suis en train de lire Ésaïe dans mon culte personnel. Et je suis en train de relire Ésaïe, parce que tellement j'ai été fasciné par la première lecture. Et Ésaïe, chapitre 14. Et là, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire à partir du verset 13. Et c'est le chapitre sur Babylone, hein, sur Nebuchadnezzar. Au verset 13, il dit, « Je dirai... Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles du ciel, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ? Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée, précipité sur des pierres d'une fosse comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne te parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, et qu'on ne se relève plus pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone. Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Je ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Vous regardez aujourd'hui sur YouTube et vous allez voir où se trouvait Babylone, et ce sont que des ruines. Ça n'a jamais été reconstruit. Dieu dit, voilà, Tu as voulu. Vous avez. Vous, en fait, ce qu'il est en train de dire, je vous ai donné une tâche, mais vous avez abusé. Vous aviez une tâche à faire, vous avez profité par-dessus. Vous savez, des fois, le Seigneur nous donne des responsabilités et par excès de zèle, on va plus loin que ce qu'il avait voulu. Il dit, ah, tu étais mon serviteur, maintenant tu ne l'es plus. Et maintenant, il faut que je m'occupe de toi. Parce que, quelque part, les pensées sont parties, parfois, et ceci. Et je suis obligé de te remettre à ta place. Ce passage dans Ésaïe, parfois, il est utilisé aussi pour dire qu'il fait référence à Satan lui-même. Hein. Satan, qui lui a eu ses pensées et s'est élevé au-dessus de ce qu'il devait penser, et il a été renvoyé du ciel. Je ne vais pas développer cette partie-là, mais c'est pour vous montrer que comment Dieu, eh bien, peut se servir d'un homme, mais si l'homme cesse d'accomplir et de remplir fidèlement la tâche qui lui a été accomplie, eh bien Dieu s'occupe de lui. Il lui dit, moi je t'ai donné des possibilités, je t'ai donné des dons, je t'ai donné toutes sortes de choses, mais tu as fait comme si c'était à toi et que tu pouvais faire ce que tu voulais et tu es élevé devant les hommes et devant Dieu. Il dit, je te remets à ta place. Et c'est souvent arrivé... Je suis jeune depuis longtemps et donc j'ai vu des choses et j'ai vu le Seigneur prendre des gens qui avaient des dons et des capacités plusieurs fois ce que j'ai. Mais après, c'est monté à la tête et ils sont devenus inutiles. Mais aujourd'hui, c'est des ruines. Et nous devons faire très attention. Et ça, ce n'est pas juste pour des pasteurs, c'est pour n'importe quel niveau. Dimanche, on parlait de tourner tous tes serviteurs. Et le Seigneur m'a accompli une tâche, il nous confie. Mais dans tout cela, vous voyez comment Dieu prend soin de son peuple quand même. Hein, et Dieu arrive à être en train de travailler sur plusieurs plans en même temps. Il est en train de donner des leçons à Israël, de les punir. Mais il n'oublie pas ses promesses à Abraham et il va les ramener. Il se sert de Nebuchadnezzar pour accomplir sa tâche. Nebuchadnezzar, il exagère. Dieu s'occupe de lui. Les ustensiles ont été emportés, mais c'est à lui. Il va les faire revenir. Et puis, je termine avec un dernier passage, Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, pour nous rassurer dans notre époque maintenant. Hein, ça, ces choses dans l'Ancien Testament étaient écrites pour notre instruction, mais nous sommes dans une situation autre. Donc Apocalypse chapitre 12, et je lis à partir du verset 7, je vais commencer au verset 7, Apocalypse 12 verset 7, il dit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel, donc un archange, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Le dragon, c'est Satan. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le diable, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui est accusé devant Dieu jour et nuit. » Il dit, écoute, nous on est au Seigneur, on est sauvés, mais on a encore affaire avec l'ennemi-là, quand il est gentil, on a des petits problèmes, mais des fois il cherche à nous détruire et détruire l'œuvre de Dieu. Et on est là, on combat constamment. Et puis, c'est l'accusateur des saints. Et puis, dans beaucoup ce qu'il a, ses accusations, il a certainement raison, parce qu'on n'est pas ce qu'on devrait être. Mais il nous dit, mais la vraie délivrance, le salut sera accompli lorsque le Seigneur nous rendra et quand le diable sera renvoyé du ciel. Et je continue à lire au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Christ, c'est ça qui fait toute la différence. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parlant des martyrs pour la cause de Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous savez, Dieu aura le dernier mot. Il y a les choses n'ont pas été comme il aurait voulu dans le jardin d'Éden. L'homme a désobéi. Ce n'était pas ce que Dieu voulait pour l'homme, mais l'homme l'a fait. Dieu s'occupe de cela. Il règle ça et il a un plan. Il nous sauve, mais parfois on a besoin Dieu travaille avec nous individuellement, il travaille avec nous en tant qu'Église, il travaille avec nous le corps de Christ, il travaille avec le plan de Dieu, il est en train de travailler sur tous les plans. Après, monsieur Petit Steve, là, de Fréjus, il dit, Dieu, tu peux pas faire pleuvoir aujourd'hui? Il dit, il y en a un qui vient de me demander du soleil. Et puis toi, tu lui demandes la pluie, l'autre, il veut du vent parce qu'il veut sortir sur la mer, l'autre, il veut... Et il dit, fais-moi confiance, je gère. C'est pour apprendre l'expression des jeunes. Je gère, fais-moi confiance. Et il dit, et tout ce qui est à moi restera à moi, ce ne sera pas perdu. Il dit, toi, occupe-toi de toi. Je te confie des choses, je te confie des responsabilités, je te confie des dons, je te confie des personnes à suivre et à encourager. Je te confie quelqu'un que tu peux appeler et encourager. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien parce que moi j'ai suivi un tel et puis il est arrivé. Vous savez, moi c'est moi qui ai suivi un tel, c'est moi qui l'ai. Écoute, c'est pas toi. Ce Seigneur s'est servi de toi. Quand tu commences à prendre ça, ça monte à la tête, alors le Seigneur, il sait bien rabattre les gens. Heureusement, moi, j'ai ma femme qui me remet en place très vite, avant que le Seigneur arrive à le faire. Donc, je suis encore vivant, là. Et si jamais j'ai la moindre pensée, elle coupe l'herbe en dessous. Elle me remet à ma place. Mais merci, Seigneur. Bon, c'est pas agréable sur le moment, mais voilà, merci, Seigneur. Je dis merci après. Mais le Seigneur nous aime, c'est un Père céleste. Il nous aime aussi. Et il veut nous garder. Parce qu'il a un plan et il veut l'amener jusqu'à l'aboutissement. Jusqu'à la fin. Et il accomplit son plan pour nous. Et nous avons le privilège d'être dans ce plan. Et je n'ai pas à avoir peur de moi, parce que si jamais j'exagère, il me remet à ma place. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Les choses, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne l'oublions jamais, même si ça n'a pas l'air. Et même si on a l'impression que deux fois de travers, si vous n'êtes pas convaincu, allumez le journal du soir, de 20h, vous allez voir, tout va de travers dans ce monde. Mais chez Dieu, il a un plan qui se réalise. Gloire à son nom. Que nous soyons fidèles, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen.